sur l'info, le journal
avec MCM.
Donc, vendredi matin, 8 janvier, voilà, c'est bon. 7h30, c'est parti pour le journal. Vaïté Oradi Pambrin, bonjour.
Yora Moreto, yora à tous. Dans notre édition de ce matin, nous aborderons des sujets de société, d'économie ou encore politique, avec par exemple la mise en place du parti politique d'Edouard Fritsch le 20 février prochain à Ouraïtinihaou. Côté économie, le pays et notamment le ministre de l'équipement a annoncé hier que 16 millions destinés à l'équipement, plus de la moitié sera consacrée à des travaux, dont 52% au bétonnage et réfection de routes. Nous parlerons aussi dans notre journal des apprentis météorologues qui annoncent la venue de cyclones d'ici 5, 10 ou 15 jours, alors que rien n'a été confirmé. Et enfin, nous aborderons aussi un sujet de société avec l'association 193 qui demande à la France de reconnaître les effets néfastes sur la santé et l'environnement des essais nucléaires.
Et Edouard Fritsch va donc fonder son parti le 20 février.
Effectivement, le président du pays rassemblera ses troupes dans son fief, à Ouraïtinihaou, pour arrêter le choix du nom et du programme et surtout désigner les dirigeants de son futur parti politique. Et c'est la date du 20 février qui a été retenue pour ce congrès fondateur. Après son exclusion du Tahrir le 1er septembre dernier, Edouard Fritsch avait posé les fondations de sa propre formation politique en organisant le grand rassemblement de ses fidèles dans les jardins même de la mairie de Pirin. Les 2500 participants étaient alors devenus les membres de l'Assemblée des fondateurs du futur parti, tandis qu'un comité des fondateurs avait été créé en attendant ce congrès.
On parle maintenant des Tavanas et de l'alternative autonomiste au Tahrira.
Plus de 30 Tavanas sur les 48 que compte la Polynésie étaient présents lors du rassemblement d'Edouard Fritsch en septembre dernier. Reflet de toute une partie de la stratégie politique du président de la Polynésie. En effet, il semble vouloir s'appuyer d'un côté sur l'alternative autonomiste du parti Orange et de l'autre sur l'union des Tavanas du Fénoua. La même tentative de rapprochement avait été envisagée avant les territoriales de 2013 entre le rassemblement des maires Te Amui Taira de Roni Tumahei et le rassemblement autonomiste progressiste, une formation alors composée de Philippe Chil, Béatrice Bernoudon, Armel Merceron, Teiva Manoutei, Teiki Porlier, Nicolas Bertolon et Nicole Boutou. Mais aujourd'hui, Edouard Fritsch a également réuni les Tahrira, ceux-là même qui ont tourné la page du flocisme, empiétant ainsi sur le précaré de son ancien père spirituel pour se poser en seul et unique dépositaire de l'héritage autonomiste. Ajouter à cela qu'en sa qualité de président du pays, il pourra convaincre sans mal les Tavanas que c'est maintenant chez lui que l'herbe est plus verte.
Et puis le pays a dévoilé ses 9 milliards de travaux pour 2016.
Aménagement du front de mer, passerelle de la marina à Taïna, rénovation du réseau routier de Moria. Voilà quelques-unes des opérations au programme des investissements de la direction de l'équipement pour cette année. Sur un budget de 16 milliards dédiés à l'équipement, pas moins de 9 milliards seront utilisés pour ces nouvelles opérations, dont 52% consacrés au réseau routier à Tahiti dans les îles et 18% aux infrastructures aéroportuaires. Mais le projet majeur d'Albert Solia est l'aménagement du front de mer. Le but étant d'améliorer l'accès à la ville, ainsi les espaces verts et les zones piétons auront la part belle. Des travaux qui suivent une logique, affirme le ministre de l'équipement.
Il y a une cohérence, il y a une réflexion sur les différents projets que nous avons, c'est-à-dire on part de Papeete, le front de mer, ensuite on va du côté de Maïna, on va là où il y a des concentrations de circulation qu'il faut régler, donc on a une logique dans tout ça, pour mettre effectivement à la fois la partie front de mer à un haut niveau maintenant, hein, de qualité, et derrière des liaisons routières qui permettent, pour le projet de Tahiti Manavish par exemple, d'avoir, je dirais, une remise à niveau globale de notre réseau routier.
La lutte contre la montée des eaux due au réchauffement climatique est aussi une des préoccupations du gouvernement. Aussi, plusieurs murs de protection seront érigés, comme par exemple à Manhi. Et concernant les rivières, des travaux de sécurisation seront menés en concertation avec le comité de suivi mis en place.
Bon, j'espère. C'est relativement calme en ce moment. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a le comité de suivi qui fonctionne. Il y aura toujours des gens qui sont, je pense, insatisfaits des solutions. Aujourd'hui, on est vraiment dans la phase où on va terminer l'aménagement de la rivière dans la partie haute. Et je pense que pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de remontée négative. Hein, ça a l'air de fonctionner.
Les interviews étaient réalisées par Valentine Bluet. Quelques exemples d'études significatives pour cette année. Le bétonnage de la route à Rapa ou encore la piste de Taipivai à Nukuhiva. Construction d'un mur de protection à Apataki et la mise aux normes de la piste de Mataiba pour ne citer que quelques-uns.
Et puis, attention, prenez garde aux apprentis sorciers de la météo.
On vous en parlait déjà hier de ces apprentis prévisionnistes qui se donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux et qui ont affolé plus d'un avec les informations du site internet comme Windity. N'est pas météorologue qui veut, et en cette période cyclonique, Météo France rappelle l'importance de bien vérifier les informations avant de crier au loup. Les explications avec Bertrand Grassi, chef du service prévision de Météo France. Ses propos ont été recueillis par Agathe Loriot.
Que c'est bien de se passionner pour la prévision, c'est bien de se passionner pour la météo. Je trouve que plus il y a de gens qui s'y intéresseront, mieux ce sera. Mais il faut savoir ce qu'on fait, ce que l'on regarde. Sur ces sites-là, on regarde des modèles déterministes qui sont... Plus on va loin dans le temps, plus ils sont flous et moins on en a de précision. Alors je leur conseille de prendre avec beaucoup de pincettes ce qu'ils peuvent voir et de ne pas prendre comme une vérité première. À 8 jours, 10 jours, un point précis qui donne toutes les valeurs de tous les paramètres. C'est le résultat d'un calcul sur 10 jours, heure par heure, avec des marges d'incertitude qui deviennent énormes.
Bertrand Grassi considère qu'alerter pour un cyclone dont on n'est absolument pas sûr est contre-productif.
Trop d'alertes tue l'alerte. Donc si on a des fausses alertes jetées par n'importe qui, n'importe comment, n'importe où, le jour où les gens auront une vraie alerte, ils ne réagiront pas de façon correcte et c'est là que ça devient dangereux. Ben, l'année dernière, en Nouvelle-Calédonie, ils ont eu un cyclone qui s'appelait, je crois, Ola, qui était vu par les modèles assez longtemps à l'avance et qui, donc ça s'est réalisé. Et après, on dit aux gens, vous ne l'avez pas prévenu longtemps avant, mais on aurait prévenu plein d'autres fois de façon fausse. Donc il faut prévenir quand on est sûr que le résultat va être là.
Les prévisionnistes rappellent que l'on peut voir venir un cyclone entre 3 et 5 jours seulement, à condition qu'il soit déjà formé. Un seul conseil, se tenir prêt pendant toute la saison cyclonique.
Et puis un homme a pris 7 mois ferme pour avoir envoyé son voisin à l'hôpital.
Un jeune homme de 33 ans, habitant Hitimana, est coupé hier en comparution immédiate de 7 mois ferme pour avoir donné un coup de pied au visage à son voisin qui s'est ensuite retrouvé hospitalisé pendant 4 jours et s'en est aussi tiré avec 21 jours d'ITT. L'agresseur avait déjà été condamné pour avoir frappé un gendarme.
Et on aborde le sujet du nucléaire pour terminer avec une pétition pour demander un référendum.
L'association 193 l'avait annoncé l'an dernier lors de la commémoration des 49 ans du premier tir nucléaire à Mururoa. Aujourd'hui, l'association demande qu'un référendum sur les essais nucléaires réalisés et sur les conséquences soit mis en place aux Finnois. Une pétition en ligne a donc été lancée en ce sens, demandant aux élus de bien vouloir mettre en place cette consultation. Cette pétition s'articule autour de deux questions. Pensez-vous que les 193 essais réalisés à Fangataufa et Mururoa soient une bonne chose? Et enfin, pensez-vous que l'État français doit réparer en conséquence? Michael Kautei, deuxième vice-président de l'association 193, considère que la France doit reconnaître que les essais nucléaires réalisés aux Finnois ont été néfastes, tant au plan sanitaire qu'environnemental.
Aujourd'hui, nous voulons, à travers ce référendum, que la France reconnaisse réellement les essais ont été néfastes sur l'environnement et sur la santé de la population. Notre CPS, elle est plombée et nos générations futures vont devoir payer 2 fois ou 4 fois plus que nous. Donc voilà, aujourd'hui, la France doit reconnaître ça et doit faire l'effort aujourd'hui de ne pas nous oublier et de mettre la main à la poche concernant la santé.
Si le oui est majoritaire, est-ce que vous pensez que la France va reconnaître finalement les dégâts que les essais nucléaires ont fait en Polynésie?
Je pense que oui, lorsqu'il y a un oui d'un référendum, la France ne peut plus reculer derrière ça, ne peut pas fermer les yeux en tout cas, et ne peut plus ignorer la décision d'une population. Si le oui l'emporte, la France doit, une obligation en tout cas, de revoir sa position et de réparer tout ça.
Les membres de l'association 193 ont ainsi rencontré plusieurs élus et personnalités politiques locales et ils tiennent néanmoins à éviter la moindre récupération politique.
Tous nos politiciens sont quasiment d'accord avec nous sur ce projet-là. Ils nous soutiennent, du moins, dans notre démarche.
Est-ce que certains d'entre eux ont déjà signé cette pétition?
Non, pas encore. pas encore. Pour l'instant, aucun politicien n'a signé, mais nous envisageons de les rencontrer d'ici sous peu.
Alors, est-ce que vous pensez que les 57 élus à l'Assemblée, les membres du gouvernement ainsi que les Tavanas de la Polynésie seront prêts à signer cette pétition?
On l'espère en tout cas. Les politiciens nous ont annoncé lors de nos visites qu'ils étaient prêts à nous soutenir dans ce projet.
Michael, pour vous, il est important que la population sache que ce référendum que vous montez, ou en tout cas votre association, est complètement apolitique.
Complètement, complètement apolitique. Et là, on l'a fait savoir aussi à nos politiciens qu'il n'est pas question de récupérer quoi que ce soit derrière ce référendum-là. En tout cas, c'est le politicien qui doit soumettre ce référendum-là, mais avec les associations derrière, et qui veut être à la tête de ce référendum-là.